Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 89 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Si vous venez de découvrir le podcast, ce livre aide à se défaire de l'endoctrinement qu'on reçoit qui nous maintient en esclavage sans qu'on s'en aperçoive. Cet endoctrinement est aussi en grande partie, avec à mon avis les traumatismes émotionnels de l'enfance, la cause des guerres, de la pauvreté, de la pollution. Le début du livre est à l'épisode 50. Voici le chapitre d'aujourd'hui. L'effet du mythe sur les défenseurs de la liberté. Le gouvernement lui-même ne fait pas de mal, car il s'agit d'une entité fictive. Mais la croyance dans le gouvernement, l'idée que certaines personnes ont le droit moral de régner sur d'autres, a causé une douleur et une souffrance incommensurables, l'injustice et l'oppression, l'esclavage et la mort. Le problème fondamental ne réside pas dans un ensemble de bâtiments, ni dans un groupe de politiciens, ni dans une bande de soldats ou d'agents de la force publique, ni dans une organisation contre laquelle on peut voter, ni qu'on pourrait renverser ou réformer. Le problème fondamental est la croyance elle-même, l'illusion, la superstition et le mythe de l'autorité qui réside dans l'esprit de plusieurs milliards d'êtres humains, y compris ceux qui ont le plus souffert à cause de cette croyance. Ironiquement, la croyance en l'autorité affecte considérablement la perception et les actions même de ceux qui luttent activement contre un régime particulier. La superstition modifie et limite radicalement la manière dont les dissidents luttent contre l'oppression et rend presque tous leurs efforts impuissants. En outre, les rares fois où un tyran est renversé, une forme d'oppression est presque toujours remplacée par une autre, souvent pire que la précédente. Au lieu de se battre contre une bête inexistante, les combattants de la liberté doivent reconnaître qu'elle n'est pas réelle, qu'elle n'existe pas, qu'elle ne peut pas exister et agir en conséquence. Bien sûr, si quelques personnes seulement surmontent la superstition, elles seront probablement ridiculisées, condamnées, attaquées, emprisonnées ou assassinées par ceux qui croient encore fermement au mythe. Mais lorsque même seulement une minorité significative de personnes dépassera la superstition et modifiera son comportement en conséquence, le monde changera radicalement. Lorsque le peuple veut réellement la vraie liberté, il l'obtient sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections ou à une révolution. Le problème est que presque personne ne souhaite réellement que l'humanité soit libre, et presque personne ne s'oppose à l'oppression par principe. En d'autres termes, les effets du mythe de l'autorité restent intacts même dans l'esprit de la plupart des personnes qui se considèrent comme des rebelles, des anticonformistes et des libres penseurs. Au cours de leur adolescence, de nombreuses personnes traversent une période d'apparente rébellion qui consiste principalement à faire tout ce que l'autorité leur dit de ne pas faire. Fumer, avoir des relations sexuelles libres, consommer de la drogue, porter des vêtements ou des coiffures différents, se faire tatouer ou percer le corps, etc. Au lieu d'obéir pour obéir, ils désobéissent pour désobéir, mais ne montrent toujours aucun signe de capacité à penser par eux-mêmes. Ils se comportent comme des enfants en colère et non comme des enfants obéissants, mais ne se comportent toujours pas comme des adultes. Et dans la plupart des cas, leur désir naturel de briser les chaînes de l'autorité ne dure pas longtemps. Ils dépassent leur tendance anti-autoritaire et se transforment progressivement en citoyens modèles, c'est-à-dire en sujets obéissants. Par exemple, les hippies prétendument radicaux et anti-autoritaires des années 1960 sont plus ou moins devenus le nouveau gouvernement des États-Unis avec la présidence de Bill Clinton. Même les peaceniks pacifistes, dont le mantra était « vivre et laisser vivre », lorsqu'ils ont eu la possibilité de devenir la nouvelle autorité, ont choisi de s'immiscer par la force dans la vie des autres autant, voire plus, que leurs prédécesseurs, y compris par le biais de la conquête militaire. De même, la génération X, les MTV, etc., ont toujours concentré leurs efforts sur l'accession au pouvoir de personnes qui leur convenaient, au lieu d'œuvrer à la réalisation de la liberté. Il y a une différence fondamentale entre se plaindre d'une classe dirigeante particulière et reconnaître et s'opposer par principe à la folie de l'autorité. En bref, dans toutes les diverses manifestations sociétales de la soi-disant rébellion et de la non-conformité, presque aucune n'a réellement échappé au mythe de l'autorité. Au lieu de cela, ils ont simplement tenté de créer une nouvelle autorité, une nouvelle classe dirigeante, un nouveau gouvernement, une nouvelle machine centralisée de coercition par laquelle ils pourraient soumettre et contrôler leurs voisins par la force. En bref, presque tous les soi-disant rebelles sont des imposteurs qui prétendent résister à l'autorité, mais qui veulent en réalité être l'autorité. Si l'on part du principe qu'il doit y avoir une autorité et qu'un gouvernement exerçant un contrôle sur une population est une situation légitime, pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas être celui qui dirige? Par définition, chacun veut que le monde soit tel qu'il pense qu'il devrait être, et quel meilleur moyen d'y parvenir que de devenir un roi? Si quelqu'un accepte l'idée que le pouvoir autoritaire est légitime, pourquoi ne voudrait-il pas qu'il soit utilisé pour essayer de créer le monde tel qu'il le souhaite? C'est pourquoi les seules personnes qui défendent véritablement la liberté dans son principe sont les anarchistes et les gens qui veulent le consentement dans tous les rapports humains, en anglais « voluntarists », si vous avez un mot en français, merci de me dire, des personnes qui comprennent que la domination forcée des autres n'est pas légitime, même lorsqu'elle est appelée « loi », et même lorsqu'elle est exercée au nom du peuple ou du bien commun. Il y a une grande différence entre s'efforcer d'obtenir un nouveau maître, plus sage et plus noble, et s'efforcer d'obtenir un monde d'égaux où il n'y a ni maître ni esclave. De même, il y a une grande différence entre un esclave qui croit au principe de liberté et un esclave dont le but ultime est de devenir le nouveau maître. Et ce, même si cet esclave a vraiment l'intention d'être un maître bon et généreux. Même ceux qui prônent un type de gouvernement relativement limité et bienveillant plaident contre la liberté. Tant que les gens croiront au mythe de l'autorité, chaque chute d'un tyran sera suivie de la création et de la croissance d'un nouveau tyran. L'histoire regorge d'exemples tels que Fidel Castro et Guevara, qui se sont présentés comme des « combattants de la liberté » juste le temps de devenir les nouveaux oppresseurs. Ils étaient sans aucun doute sincères dans leur opposition véhémente aux oppressions dont eux et leurs amis souffraient. Mais ils n'étaient pas opposés à l'oppression autoritaire par principe, comme l'a clairement démontré leur comportement une fois qu'ils ont eux-mêmes obtenu le pouvoir. Ce schéma s'est répété à maintes reprises au cours de l'histoire, l'opposition à un régime tyrannique devenant le germe du régime tyrannique suivant. Même la montée au pouvoir d'Hitler était due en grande partie à la colère contre les injustices et les oppressions perçues comme infligées à l'Allemagne par le traité de Versailles. Bien entendu, tant que les rebelles souffriront de la superstition de l'autorité, leur première priorité, une fois qu'ils auront renversé un gouvernement, sera d'en établir un nouveau. Ainsi, même les actes de bravoure et d'héroïsme de ceux qui croyaient encore au gouvernement n'ont fait que remplacer un tyran par un autre. Beaucoup ont été capables de reconnaître et de s'opposer à des actes spécifiques de tyrannie, commis par des régimes spécifiques, mais très peu ont reconnu que le problème sous-jacent n'est pas de savoir qui est assis sur le trône, le problème est qu'il y a un trône sur lequel s'asseoir. La même incapacité à reconnaître le véritable problème se produit également dans des réformes plus banales et relativement pacifiques. Aux États-Unis, par exemple, une grande partie de la population est parfaitement capable de voir les injustices résultant de la guerre contre la drogue, du bellicisme mondial et d'autres violations des droits civils commises par les tyrans républicains. Cependant, ne reconnaissant pas la croyance en l'autorité comme le véritable problème, La solution proposée par ceux qui reconnaissent cette injustice est de confier les rênes du gouvernement à des tyrans démocrates à la place. Pendant ce temps, une autre partie de la population est parfaitement capable de voir les injustices résultant du poids de la fiscalité, de la micro-gestion de l'industrie par le gouvernement, des systèmes de redistribution des richesses, du désarmement des citoyens, contrôle des armes à feu, etc. Mais ne reconnaissant pas la croyance en l'autorité comme le véritable problème, la solution proposée par ceux qui reconnaissent ces injustices est de redonner les rênes du gouvernement aux tyrans républicains. Ainsi, décennie après décennie, la machine de l'oppression change de main, tandis que la liberté individuelle, dans tous les aspects de la vie, continue de s'amenuiser. Et pendant ce temps, tout ce que la plupart des Américains arrivent à envisager comme solution, c'est une nouvelle élection, un nouveau parti politique ou un nouvel effort de lobbying, dans l'espoir de supplier la classe dirigeante d'être plus sage ou plus bienveillante. Certains, constatant le désastre causé par le système bipartite, attribuent à l'extrémisme les effets négatifs du gouvernement. Ils supposent que si les gens soutenaient une forme de contrôle coercitif située quelque part entre l'extrême gauche et l'extrême droite, les choses s'amélioreraient. Ces personnes prétendent être indépendantes, ouvertes d'esprit et modérées, mais ne sont en réalité que des défenseurs généraux de l'oppression au lieu d'être des défenseurs d'une forme particulière d'oppression. La gauche et la droite ne sont que deux masques que porte l'unique classe dirigeante, et la création d'un nouveau masque qui soit un compromis entre les deux autres n'aura aucun effet sur la nature de la bête ou sur la destruction qu'elle provoque. Parmi ceux qui votent démocrate ou républicain, ou pour n'importe quel autre parti, personne ne reconnaît le problème sous-jacent et par conséquent, personne ne se rapproche jamais d'une solution. Ils restent des esclaves car leurs pensées et leurs discussions se limitent à la question inutile de savoir qui doit être leur maître. Ils n'envisagent jamais et n'osent pas se permettre d'envisager la possibilité qu'il n'ait pas de maître du tout. Et puisque le fondement de toute action politique est la croyance en l'autorité, qui est le problème lui-même, les efforts des étatistes sont donc et seront toujours voués à l'échec. Malheureusement, il en va de même pour les mouvements politiques marginaux, censés être plus favorables à la liberté, comme les constitutionnalistes, le Parti libertaire et d'autres. Tant qu'ils pensent et agissent dans les limites du jeu du gouvernement, leurs efforts sont non seulement totalement incapables de résoudre le problème, mais ils l'aggravent en légitimant par inadvertance le système de domination et d'asservissement qui porte l'étiquette de gouvernement. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire sur iTunes ou là où vous préférez, ça rend le podcast plus visible et ça aide donc les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse », les vraies règles du jeu.